Le bonheur, c'est le progrès. Faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se part. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans l'île, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé. Moi,
bonsoir.
Il est 19h03.
On n'est pas trop en retard.
Non, ça va.
Et bah si, on est en retard, non, c'est mort pour la blague, c'est trop tard.
Et donc, vous êtes bien sûr Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du lundi.
Et donc, on commence aujourd'hui par un point à l'international, comme d'habitude, sur la situation aux Comores. On ira ensuite voir ce qui se passe au Soudan. Et puis, on parlera rapidement du don d'un terroriste à nos amis les identitaires. On passera ensuite au national. Et on enchaînera donc avec la nouvelle mort suspecte d'un homme dans un quartier populaire tué par la police. Ensuite, on fera un point sur les gilets jaunes et on terminera donc sur les banques qui font ouin ouin dans une tribune au Monde, dans le Monde. Et on finira donc par le local, comme d'habitude, avec la grève des éboueurs. Et pour finir, un dossier avec l'interview donc de salariés de Cogepar Carrefour en grève depuis 3 semaines qui vont donc nous raconter tout ça.
Mais avant tout ça, priorité au direct.
Ça, on va essayer d'avoir quelqu'un au téléphone, je ne sais pas où on en est. Parce qu'en ce moment, il y a un rassemblement devant la PAF, en fait, Place Guichard, qui est pas loin de la PAF, et on va avoir quelqu'un qui est à ce rassemblement. Et juste après avoir écouté l'insert téléphonique, vous pourrez y aller ou écouter la fin de l'émission, en fonction.
Alors, est-ce que la personne qu'on a en ligne nous entend? Et non, apparemment, elle nous entend. Alors on peut peut-être dire rapidement par qui c'est appelé ce rassemblement?
Eh ben, c'est appelé par des gens qui sont contre les expulsions et contre l'enfermement des personnes pour une raison toute bête, qui n'ont pas de papier, pas d'autorisation à rester en France. Et donc par des gens qui pensent que personne n'est illégal et qui ont constaté en allant voir des personnes enfermées dans les centres de rétention administrative qu'en plus il y a des pratiques assez douteuses de la part de la police aux frontières, et donc c'est un rassemblement pour dénoncer ces pratiques
et ces traitements dégradants. Est-ce que tu nous entends?
On ne vous entend pas beaucoup.
Allô?
Ouais, on vous entend vraiment pas beaucoup du tout.
Il est très agréable pour nos auditeurs.
Allô?
Oui, ah, c'est bon.
Oui, mais elle ne peut pas parler.
Ah ouais. Alors nous on t'entend
très éloigné.
Est-ce que... Allô? C'est pas facile, hein? Mais ça téléphonique. On n'entend rien du tout. Ouais.
On n'est pas fort en téléphonique. Désolé, on ne t'entend pas bien. Allô ?
Ça se passe étrangement là-bas, en tout cas.
Non, il se passe des trucs. Non, c'est pas des trucs très chouettes, parce qu'on va
vous être bien dans la bavette. Radio Canu, ceci n'est pas une bavette.
Oui, alors donc très rapidement, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant rejoindre ce rassemblement Place Guichard, qui est donc, comme je vous le disais, pour dénoncer le fait qu'on considère que certaines personnes peuvent être illégales, dénoncer les expulsions et l'enfermement pour la seule raison qu'on est étranger et qu'on n'a pas obtenu la fameuse autorisation de séjourner en France, et aussi plus pratiquement contre les pratiques de la PAF, contre les violences physiques qui sont constatées, des tabassages, le fait que les personnes sont régulièrement droguées avant d'être expulsées, le manque de soins et de traitements, le renvoi même parfois dans des pays qui ne sont pas le pays d'origine des personnes pour pouvoir les expulser plus rapidement, la pratique des punitions collectives quand il y a des rébellions, c'est-à-dire interdiction de parloir, de sortie dans la cour, des règles très arbitraires qui changent, et tout ça qui mène à des situations de détresse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs grèves de la faim et des gens qui se mutilent pour attirer l'attention, et il y avait notamment quelqu'un qui était en grève de la faim depuis plus de 2 semaines et quelqu'un qui s'est tailladé le ventre et les poignets, et la seule prise en charge qui en a été faite, c'est qu'il a été recousu et mis à l'isolement. Voilà, donc vous pouvez aller les rejoindre. On vous en voudra pas trop de pas écouter la fin de l'émission, vous l'écouterez en podcast.
Voilà, vous pourrez le podcaster
et
après.
Parce que c'est quand même assez important, c'est des personnes qui sont très isolées et dont on parle très peu.
Alors, on enchaîne donc avec l'international sur les Comores.
Oui, parce que la situation est particulièrement tendue aux Comores depuis le scrutin présidentiel qui a donc eu lieu le 24 mars dernier. Pardon. Donc, pour rappel, les Comores, c'est un archipel qui est constitué de 4 îles au large du Mozambique. Jusqu'en 1975, c'était une colonie française. Elle avait été vendue en 1841 à la France. Et après consultation, seule Mayotte est restée sous le giron français. Alors, on en avait parlé dans l'émission il y a un peu plus d'un an à l'occasion d'une sortie bien raciste de Macron sur les Kwasa Kwasa, ces embarcations de fortune utilisées par les Comoriens pour rejoindre Mayotte. Voilà, parce qu'aux difficultés héritées de l'impérialisme français s'ajoute l'insularité qui ne permet pas aux Comores d'assurer leur autosuffisance alimentaire. La pénurie alimentaire y est d'ailleurs organisée dans le but d'assurer des prix élevés. Donc à l'exception de Mayotte, le taux de scolarisation est très faible, le travail des enfants relativement répandu, la santé très précaire et une grande partie des revenus sont assurés en fait par la diaspora comorienne. Bref, c'est loin d'être un paradis et si la population se paupérise de plus en plus, les autorités gouvernantes sont-elles de plus en plus riches ? Donc le dirigeant, c'est le colonel Azali, qui est parvenu au pouvoir suite à un putsch en 99. Il tente aujourd'hui un coup de force pour se maintenir à la tête de l'État. Alors, je précise depuis l'indépendance en 75, il y a eu plus de 20 tentatives de coup d'État, alors réussies ou non, aux Comores. Alors Azali, lui, donc, il arrive en 99. Il est ensuite élu président en 2002 pour un mandat de 4 ans. Il quitte le pouvoir ensuite 10 ans, ainsi que la Constitution le prévoit, et est de nouveau élu en 2016. Alors, je fais une petite pause Constitution pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça
marche.
Merci. C'est la minute Constitution. Donc, jusqu'à cet été, la Constitution prévoyait que le mandat présidentiel tournait en fait entre les îles. Une île ne pouvait donc pas être représentée 2 fois consécutives. Bon, ça c'est parce qu'il y a eu fréquemment des combats entre les îles en fonction de quelle île venait le président à la tête du gouvernement. Donc Azali, qui est l'actuel président, n'aurait pas pu se présenter normalement. Mais comme il est malin, il a fait voter une réforme constitutionnelle le 30 juillet dernier pour modifier ce système de rotation qu'il avait pourtant lui-même écrit en 2001.
Enfin, malin, c'est pas lui qui a inventé ça sur le continent africain.
C'est pas très original en réalité.
De changer la constitution pour pouvoir se faire réélire.
C'est sûr. Donc voilà, il s'est représenté le 24 mars. Il a obtenu 60,77% des suffrages au premier tour. Enfin, ça, c'est pareil, hein, c'est selon la commission électorale, parce que l'opposition, certaines ONG comoriennes et de nombreux observateurs internationaux parlent plutôt de hold-up et d'énième coup d'État. Alors, du côté du pouvoir, on dénonce bien sûr l'opposition qui voudrait, je cite, plonger le pays dans le chaos. Il y a donc une mobilisation assez forte de la jeunesse comorienne, mais aussi de sa diaspora. Elle est relativement importante en France, notamment du côté de Marseille. Ils étaient par exemple près de 2000 à Aix hier pour dénoncer cette fraude électorale massive, À la suite de ces mobilisations, bon, rien de bien original hein, du côté du gouvernement comorien, les opposants sont enjôlés préventivement, notamment M. Sohili, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée qui est arrivé quatrième du scrutin. C'est donc créé derrière lui le Conseil national de transition. Il y a eu 3 morts à Moroni le 27 mars après l'évasion d'un ancien commandant de l'armée qui était emprisonné depuis décembre dernier pour une tentative de coup d'État. Donc on ne fait pas du tout confiance hein, à ces chefs de guerre pour prendre le pouvoir et le répartir de manière juste et mener une politique qui soit favorable aux Comoriens. Mais c'est plutôt du côté de la rue hein, qu'on attend des réponses à la hauteur des espoirs des Comoriens. On invite d'ailleurs à soutenir la diaspora comorienne dans toutes les initiatives qui peuvent avoir lieu ici. Il y a d'ailleurs ce vendredi à Lyon, à la Maison des étudiants, 25 rue Jaboulet, une conférence débat qui est organisée par le mouvement des jeunes étudiants comoriens de Lyon. Donc c'est à 18h30 vendredi, on vous invite à y aller pour connaître un peu plus la situation de cette ancienne colonie française.
Alors, puisqu'on parle d'ancienne colonie, ben là, on va aller plutôt dans une ancienne colonie britannique, le Soudan, puisque depuis un certain nombre de semaines, il y a une très très forte mobilisation populaire qui fait trembler le pouvoir. Alors, je vais y venir. D'abord, le Soudan, donc, c'est, je l'ai dit, une ancienne colonie britannique. Ses ressources naturelles sont absolument considérables et ses revenus sont principalement liés à l'exportation du pétrole, hein, puisque ça correspond à peu près à 3/4 des revenus du pays, mais également du coton, du sésame et de la gomme arabique. Donc, c'est un pays qui a beaucoup d'argent, mais qui et cet argent est détenu par une toute petite minorité. Et cette petite minorité, elle tient le pouvoir depuis 1989. C'est le dictateur, c'est Omar el-Béchir, et ce pouvoir a été pris donc suite à un coup d'état militaire d'obédience fondamentaliste musulmane. C'est donc une dictature népotique et particulièrement corrompue. Les libertés fondamentales n'existent pas. Le régime mène très régulièrement des guerres, voire des massacres contre des catégories de population. Il y règne une extrême pauvreté, de très nombreuses maladies s'y répandent. On peut citer comme région le Sud-Soudan avant 2011, puisqu'il a depuis fait sécession, ou encore le fameux et tristement connu Darfour, le Kordofan ou le Nil Bleu, hein, pour ne citer que ces régions. Depuis donc le 19 décembre, des manifestations d'ampleur ont lieu dans tout le pays, notamment dans les grandes villes, hein, mais pas uniquement, qui ont ensuite rapidement été transformées en révoltes populaires d'ampleur. Au tout début, les premières manifestations se sont déclenchées suite au triplement du prix du pain. Dans un pays où la population meurt de faim et où le pouvoir est richissime, je l'ai dit, tout ça sous couvert de crise économique, une fois n'est pas coutume. Mais très vite, ces manifestations dépassaient cette simple revendication du prix du pain et ont réclamé non seulement la démission du dictateur Omar el-Béchir, qui a aujourd'hui 75 ans, mais aussi et surtout la chute de ce régime corrompu, dictatorial, terrible. Depuis, Omar el-Béchir a décrété l'état d'urgence, tout en réprimant violemment les manifestations. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 51 personnes ont été tuées par l'armée et de très nombreuses femmes violées. Omar el-Béchir a limogé le gouvernement fédéral et provincial et placé à la place des militaires. Le 1er mars, il a remis les rênes par intérim, et c'est important de le souligner, de son parti, le PCN, le parti du Congrès national, à Ahmed Haroun, lui aussi sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est aussi le cas d'Omar el-Béchir. Alors pourquoi est-ce qu'il a mis cet homme à la tête du parti par intérim ? Eh bien puisque les prochaines élections présidentielles sont prévues pour 2020, et c'est normalement le chef du PCM qui peut s'y présenter. Sauf que depuis samedi, Omar el-Béchir a suspendu indéfiniment la tenue de l'Assemblée Générale, au cours de laquelle doit être élu le nouveau chef du PCN, donc pour ses soi-disant prochaines élections présidentielles. Donc pour le moment, el-Béchir, il ne fléchit pas, mais on voit bien qu'il ne peut que, pour le moment, faire ce que font un certain nombre de dictateurs africains en Afrique, c'est-à-dire essayer de faire des magouilles politiciennes pour pouvoir rester au pouvoir. Donc on souhaite bon courage au peuple en colère au Soudan, et on rappelle qu'il y a aussi une très forte diaspora soudanaise qui est présente en France, et que c'est visiblement, une fois de plus, pas pour rien.
Et on continue à l'international en parlant cette fois-ci de Brandon Tarrant. Alors c'est, vous vous souvenez, ce suprémaciste blanc qui a tué 50 personnes le 15 mars dernier dans deux mosquées néo-zélandaises. Alors on va surtout parler de ses liens avec un groupe qu'on connaît bien ici, c'est Génération Identitaire. Alors vous vous souvenez probablement au printemps dernier cette fort sympathique campagne Defend Europe qui entendait empêcher par les moyens les plus crapuleux les exilés de passer la frontière entre l'Italie et la France. Alors, les fachos organisaient des patrouilles pour traquer les exilés, les contraignant à prendre les chemins les plus dangereux pour traverser la montagne, avec le résultat qu'on connaît, des dizaines de morts. Et oui, c'est pas nouveau, hein, ces petits nazis ont aucun problème à ôter des vies. Preuve en est, ils ont, semble-t-il, été financés par Brandon Tarrant. Donc lundi dernier, c'est Martin Sellner, qui est le leader de la branche autrichienne de Génération Identitaire, tout un poème. Il a en effet reconnu avoir reçu début 2018 un don de 1 500 euros qui a été versé donc par ce fameux Brandon Tarrant. Alors on se souvient aussi qu'il avait publié un petit pamphlet bien minable de 74 pages intitulé Le Grand Remplacement. Et donc dans ce pamphlet, Brandon Tarrant, il explique qu'il a financé de nombreux groupes nationalistes. Il explique aussi qu'il a communiqué avec certains d'entre eux. On se rappelle aussi qu'il explique à l'intérieur que c'est en voyage en France en 2017 qui lui a donné l'idée de ce massacre, parce qu'il se promenait en France et qu'il trouvait que vraiment on se faisait vachement grand remplacer.
On traitait super bien les migrants, voilà. Les gens qui venaient...
Surtout ses copains de Génération Identitaire. Hein, donc, du coup, voilà, visiblement, il aurait probablement eu des liens avec des groupes nationalistes lors de son passage en France. La DGSI est sur le coup, en train de chercher si effectivement il a rencontré les gens de Génération Identitaire. La conclusion, hein, c'est qu'il est grand, il est temps de grand remplacer tous ces FAF qui traînent dans nos vies.
Alors, juste puisqu'on parle de FAF, hein, et très rapidement, l'Union européenne a décidé de suivre la ligne de Matteo Salvini, donc le ministre de l'Intérieur facho italien, sur la question de la gestion des frontières et des politiques migratoires, puisque depuis 2015, avec cette crise migratoire, eh bien, l'Union européenne avait mis en place un certain nombre de navires pour soit empêcher des navires venant donc d'Afrique du Nord principalement d'arriver en Europe, soit de les secourir au besoin et de les mettre dans le port le plus proche, comme le droit international le veut. Depuis 2015, c'est 45 000 personnes qui ont été sauvées de la noyade, et depuis quelques jours, eh bien, il n'y aura plus ces navires pour venir éventuellement sauver ces personnes.
Et quand on sait que la guerre qui est menée aux associations qui viennent au secours des migrants dans ces zones-là.
Comme SOS Méditerranée, par exemple.
SOS Méditerranée, on est très inquiet de ce qui va se passer avec les coupes budgétaires. Et les...
Sachant que les chiffres ont malheureusement explosé ces dernières années, c'est-à-dire le nombre de morts en mer Méditerranée. Et là, c'est vraiment très clairement très très grave, cette décision.
Et si, puisqu'on est sur ce sujet, il y a en ce moment un bateau qui a été détourné par des migrants qui avaient été repêchés en mer par un bateau libyen et qui ont détourné le bateau quand ils ont commencé à comprendre qu'on les ramenait en Libye. Et ils sont 200 sur ce bateau et personne ne veut les accueillir.
Et donc on enchaîne avec le national.
Et donc, on passe au national pour parler de la police. Et il y a beaucoup de raisons de ne pas faire confiance à la police. Et une de ces raisons, c'est le nombre de fois où des personnes se sont faites arrêter et n'en sont pas ressorties vivantes. C'est encore ce qui s'est passé mercredi dernier en région parisienne, où un homme de 31 ans s'est fait contrôler en voiture et qui, au bout de deux jours, sa famille, qui était restée sans nouvelles et qu'il cherchait, apprend qu'il est dans un état de coma cérébral suite à un arrêt cardiaque. Il s'appelait Ange Dibé Necha et il est mort samedi 30 mars. Ce qui s'est vraiment passé entre son arrestation et son entrée à l'hôpital restera certainement flou. La préfecture de police a depuis publié un communiqué de presse donnant donc une version officielle. Et d'après ce communiqué, c'est parce qu'Ange Dibenecha aurait ingéré une substance inconnue pendant son interpellation et aurait été pris de convulsions. Pas d'explication pour les marques de violence sur son corps, pas d'explication non plus sur l'absence de communication avec la famille. C'est l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a en effet fini par contacter la famille. Ça a dû d'ailleurs être assez choquant de ne pas avoir de nouvelles de son fils pendant 2 jours et de recevoir un coup de fil d'un hôpital pour apprendre qu'il est dans un état de coma cérébral et que les médecins proposent un arrêt des soins, ne croyant pas qu'il puisse s'en sortir. Et d'ailleurs, ça se fait souvent quand quelqu'un meurt entre les mains de la police, de garder le secret aussi longtemps que possible. Ça donne le temps d'organiser une version officielle. Comme on ne sait pas ce qu'il s'est vraiment passé, on ne peut qu'imaginer et on pense forcément à la pratique interdite du pliage, mais aussi à d'autres techniques d'immobilisation qui peuvent conduire à un étouffement et à un arrêt cardiaque. C'est déjà dans ces conditions que sont morts Ali Ziri, Adama Traoré, Amadou Koumé, parmi bien d'autres. Alors rendons très vite impuissante cette police raciste, parce qu'elle tue rarement des blancs, cette police qui défend les intérêts des dominants et qui peut tuer en toute impunité, parce qu'on le rappelle souvent à chaque fois que quelqu'un meurt dans ces conditions, on est rarement puni quoi, quand on est flic et qu'on a fait ça.
Et on rappelle quand même aussi qu'il y a plus d'un mort par mois dans les mains de la police, notamment du fait de ces techniques... en plus interdites pendant les interpellations et qui continuent de faire des ravages.
Ça reste 11% des causes de mort entre les mains de la police, l'étouffement.
Alors, puisqu'on parle de police, eh bien, on va parler de gilets jaunes, puisque l'un ne va malheureusement pas sans l'autre. Hein. Si on pouvait gilets jauner tranquille sans les flics, on serait quand même vachement mieux. Mais ce n'est pas ce qu'a décidé le gouvernement ces dernières semaines, notamment depuis 15 jours. Alors... samedi dernier, il y avait quand même pas moins de 27 interdictions de manifester. Alors, interdiction de manifester, j'entends donc interdiction de se balader dans tel secteur d'une ville. Bon, par exemple, au hasard, les Champs-Élysées sur Paris, je ne vois pas pourquoi, mais c'était interdit de s'approcher du Fouquet's.
C'est bizarre.
Non, c'est très étrange. Et malgré tout, eh bien, à chaque fois qu'une interdiction de manifestation a eu lieu, eh bien, quasiment à chaque fois, il y a eu manifestation, sauf dans certaines zones parisiennes, mais en tout cas, des villes comme Bordeaux, Toulouse ou Saint-Étienne, on va y venir, hein, eh bien, il y a eu des très fortes mobilisations. Alors que certaines de ces villes étaient barricadées. Alors les chiffres nationaux, hein, toujours on fait ça un peu toutes les semaines, selon le ministère de l'Intérieur, c'est 33 700 personnes. La semaine dernière, ils avaient plutôt parlé de 40 000. Et selon Nombre Jaune, donc le site qu'on utilise beaucoup hein, pour les chiffres qu'on considère comme beaucoup plus proches de la vérité, eh bien, c'est 102 700 manifestants, soit effectivement un petit peu moins que la semaine dernière, on ne va pas se mentir, mais plus que l'acte 17 et l'acte 18, donc il y a 15 jours et il y a 3 semaines. Donc on reste sur un chiffre de mobilisation relativement élevé. Et c'est marrant puisque... encore une fois, les médias, à chaque fois, se sont empressés de dire qu'il y avait une très forte baisse de la mobilisation, que le mouvement était en déclin.
C'est un peu ce qu'ils disent toutes les semaines.
C'est hallucinant, alors que ça ne faiblit pas, même s'il y a eu effectivement quelques pics en décembre et en janvier, mais entre-temps, il n'y a pas de faiblissement, et même il n'y a pas d'affaiblissement, et même il y a un regain de mobilisation, la preuve, puisque l'acte 17 et l'acte 18 étaient plus faibles que cet acte 19. Alors, quelques petites précisions. Bordeaux, principalement, d'abord. Bordeaux, donc, il y avait un appel à monter à Bordeaux ou à descendre, selon de où on habite en France. Eh bien, la ville était barricadée. Hein. Le maire avait fait appel à Villemorte, donc fermeture des commerces, etc. Il y avait une très, très forte présence policière. Eh bien, ça n'a pas empêché les manifestants de venir par grappes de plusieurs milliers hein, qui ont défié donc, la préfecture et ont réussi pendant plusieurs heures à tenir la ville, même si évidemment les forces de l'ordre sont intervenues de manière très régulière. Il y a eu beaucoup d'interpellations et il y a eu quelques scènes un peu hallucinantes avec des manifestants alignés contre le mur ou même placés à genoux. Hein, c'est pas sans nous rappeler... le moment où des lycéens, en décembre dernier, hein, s'étaient fait mettre à genoux par des policiers. Hein, donc c'est une tactique aussi pour impressionner. Et, elle a été utilisée à Bordeaux. À Toulouse, où il y avait également une interdiction de manifester, puisque Toulouse, c'est un peu the place to be du gilet jaune national, eh bien, c'est pareil, plusieurs milliers de personnes ont manifesté. Il y a eu plusieurs blessés, hein, comme à Bordeaux, dont un grave, puisqu'il a été retrouvé inanimé dans un quasi-coma suite à une charge de CRS. C'est toutes les semaines que c'est le cas, mais on préfère quand même garder ce principe de les souligner. Et puis on terminera par Saint-Étienne puisqu'il y avait, donc là c'était plus régional, un appel à monter à Saint-Étienne, et plusieurs milliers de personnes s'y sont retrouvées, malgré un très très lourd dispositif policier. Eh bien la manifestation a eu lieu, et certes, il y a eu aussi pas mal de blessés, mais en tout cas, on notera une nouvelle fois la détermination sans faille des Gilets jaunes, pour continuer cette mobilisation. Et on terminera juste par une petite info lyonnaise. La semaine dernière, il y a eu un péage gratuit à Théo, mardi de la semaine dernière, et il y a toujours ce rond-point à la Fessine qui est occupé le lundi, mercredi et vendredi, et qui continue à être mobilisé.
Et pour revenir sur Saint-Étienne, il y a aussi eu des blessés assez sérieux, notamment quelqu'un qui a fait un malaise cardiaque à cause des lacrymos, et voilà. On rappelle que sortez couverts.
Et on continue avec nos amis les banques.
Oui, puisque comme ça fait un petit moment maintenant qu'il y a des manifestations tous les samedis et que apparemment les banques se feraient un peu casser parfois de temps en temps. Le comité exécutif de la Fédération bancaire française a publié une tribune sur Le Monde pour demander la fin des casses des banques qu'elle trouve injustifiée. Il y a pourtant de bonnes raisons de casser les banques, symboliquement d'abord. C'est à une forme de répression des pauvres qu'on s'attaque. Combien de personnes acceptent leurs conditions de travail, de se faire rabaisser par leur patron, d'être mal payés parce qu'ils ont un crédit, parce qu'ils sont coincés dans un engrenage de découvert et d'agio, et qu'ils ont trop peur de perdre leur salaire? Plus généralement, c'est un message clair pour exprimer une haine du pouvoir de la finance, et moins symboliquement, cela participe à l'enrouement du système économique. On rigole un peu jaune quand on lit dans cette tribune que la Banque française irrigue en emploi et en richesse nos campagnes comme nos villes. C'est littéralement ce qu'il y a écrit dans la tribune, hein, j'invente rien. Alors moi, je sais bien qu'il y a clairement des gens qui se font beaucoup d'argent grâce aux banques, mais moi, ma banque, elle ne m'irrigue pas trop de richesse. Pourtant, j'ai habité à la campagne et à la ville, et elle me prend bien plus essayé. D'argent que le
mais vendage. D'agio, par contre.
Ouais, plutôt ça, dans ce sens-là, ça marche, ouais. Ça parle aussi de mise en danger de leurs employés, sûrement en référence à l'incendie de la banque Tarnow le 16 mars à Paris. Mais ce n'est pas aux employés que s'attaquent les manifestants qui brisent des vitres, des enseignes et des distributeurs de billets. On en est à plus de 760 établissements qui auraient subi des dégradations depuis le début du mouvement. Il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter. Si les banques pleurent, on est sur la bonne voie pour un monde sans capitalistes.
Et du coup, les journalistes du Monde, ça leur pose absolument aucun problème de laisser une tribune aux banquiers pour qu'ils chougnent. Enfin, je veux dire, on peut quand même aussi rappeler que depuis le début du mouvement, ils se montent bien aux ordres du gouvernement, mais là, ils brillent encore une fois par.
J'ai hâte de voir Le Monde qui donnera une tribune aux casseurs, c'est vrai, parce que c'est marrant, ils ne le font pas. Par contre, aux banques, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de droit de réponse.
Il faudrait leur demander un droit de réponse. Pourquoi on casse? Enfin, pas moi, je veux dire. Non. Bon, non. Alors, on enchaîne avec le local, et donc une grève récente.
Et donc, oui, récente, sur au local. Non, pas du tout récente, justement, c'est bien le problème. C'est donc les éboueurs en fait, de la métropole lyonnaise sont en grève maintenant depuis 3 semaines. Donc, oui, on est très loin de la.
En tout cas, on salue leur détermination
à tenir aussi longtemps, parce que clairement, elle est grande. Et donc, voilà, pour rappeler le contexte, c'est qu'en fait, donc, la métropole a été créée il y a quelques temps maintenant. Et il est comme d'habitude, tout met du temps. Ils sont en train d'harmoniser en fait, les conditions de travail entre les anciens employés. Qui appartenaient au département du Rhône et ceux de la métropole. Et dans le cadre de ces négociations communes, donc, évidemment, il y a un certain nombre d'employés et de travailleurs de la métropole ont été totalement laissés de côté, notamment sur la question des éboueurs et des spécificités de leur emploi, et notamment sur la question de la pénibilité. Donc, pour cela, donc, les éboueurs, fortement soutenus principalement par FO, se sont mis en grève il y a plus de 3 semaines. Et ils demandent en fait simplement, ils ont des demandes des augmentations de salaire, le simple maintien des primes et éviter que baissent leurs conditions de travail, et notamment d'être au moins être minimum 2 sur les tournées à l'arrière de chaque camion pour pouvoir travailler correctement. La métropole, aussi jaune que d'habitude, a continué en fait à trahir le mouvement en faisant appel à une société privée pour assurer le remplacement, leur ramassage des différentes ordures.
Mais ils ne peuvent pas trahir le mouvement il est contre eux.
Non, ils pressent le droit de grève.
Oui, le droit de grève. Oui.
Et sauf que la très bonne nouvelle, c'est que en fait, les employés de cette société privée vont aussi à leur tour être en grève à partir du 2 avril où un préavis a été déposé. C'est ce qui va permettre de maintenir la pression sur en fait, la métropole en espérant que ces deux mouvements puissent gagner.
Comme on dit chez nous, chais.
Très bonne intervention.
Ça permettra de conclure. Et donc, bah maintenant, nous avons donc trois invités aujourd'hui. Et bah vas-y.
Alors, ouais, donc aujourd'hui, on a Mounir, Mohamed et Larbi. Donc, merci d'être présents. Bienvenue à vous.
Merci de nous avoir invités.
Alors, d'abord, présentez-nous un petit peu qui sont vos employés, quels sont vos postes. Alors, vos employés sont Carrefour et Cogepar. Et puis, quels sont vos postes Allez-y, racontez-nous un peu.
Oui, alors pour le coup, nous, on est plutôt les employés de Carrefour.
Employeurs.
Qui sont vos employeurs, bien sûr. Ouais. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Oui, oui, qui sont vos employés, c'est vrai, ouais.
On aimerait bien, mais...
Oui, oui, c'est vrai, ouais. J'imagine.
On retourne.
Alors nous, on est les sous-traitants de Carrefour, on s'occupe de la livraison à domicile, on s'occupe justement de prendre les courses des gens et de les emmener chez eux sous un délai de 3 heures. Nous, on était aussi en grève pendant 3 semaines. On a réussi à avoir une petite négociation vendredi.
Ouais, ça, on y reviendra.
Voilà,
ouais.
Exactement. Alors, pour reprendre vraiment du début, nous, alors Cogepar, c'est une société où il y a 1600 salariés. Cogepar, c'est à peu près une cinquantaine de petites sociétés dans toute la France, séparées. Nous, on était sur LAD 69 à Lyon. À Lyon, il y en a deux, en fait. C'est les coursiers LAD 69. LAD 69, on était bien... il y avait des élus, on était super bien là-bas. Et en fait, on s'est fait...
Fusionner par...
Il y a eu une fusion, en fait, avec les coursiers de Lyon. Donc, on s'est fait avaler. On a perdu tous nos élus. On s'est retrouvé dans une nouvelle société, donc les coursiers de Lyon. Il y a 200 salariés. Et un côté Carrefour. Et un côté pièces auto, etc., etc.
Voilà, ils ont scindé en plusieurs petites sociétés. En fait, nous, on avait demandé en fait une unité économique pour justement avoir une seule, enfin, en une seule entité. Ils n'ont jamais voulu. Donc, nous, maintenant, on l'a compris. On a, en fait, on était sur Cogepar LAD 69 jusque, on va dire, fin 2018. Jusqu'à décembre 2018. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont fait une fusion absorption.
On a une chute de micro dans le studio.
Voilà. Donc une fusion absorption entre deux sociétés. Donc nous, en fait, il faut savoir que la LAD, en fait, on avait on vient du syndicat solidaire où on avait implanté, on va dire notre réseau solidaire bien implanté sur la. Quand j'ai parlé de 69, et depuis, on subit
En fait, quand il y a eu la fusion, on est arrivé à 200 salariés, alors qu'il y a, on va dire, en gros, il y a du travail pour 150 personnes. Donc en fait, on était en sur-effectif et on savait qu'il allait y avoir des licenciements derrière. On les avait prévenus, en fait, au mois de novembre. On avait fait des courriers, des mails, etc., pour prévenir que, s'il n'y avait pas de négociation, de discussion autour d'une table, on allait être obligé de faire une grève. On ne nous a jamais écoutés, on ne nous a jamais répondu. Donc on a attendu. Et en fait, arrivé au mois de mars, au 12 mars, en fait, il y a un des salariés qui devait justement, qui devait être licencié.
En fait, voilà.
Donc du coup, nous, on s'est opposé à ça, on s'est mis en grève. À côté de ça, depuis un bon moment, on a des soucis de conditions de travail, on a des soucis parce que notre employeur ne respecte pas la convention collective, le code du travail, mais bon, ça, je pense que il y a beaucoup de sociétés privées.
On va en parler de ça.
Justement. Alors donc, vous êtes tous les trois solidaires,
solidaires de Lyon.
Solidaires de Lyon, voilà. Et du coup, vous avez décidé donc de lancer cette grève d'abord et principalement au départ par rapport à cette tentative de licenciement.
Exactement.
C'est même pas une tentative, en fait, c'était carrément en plein procédure de licenciement abusif parce que le mec, en fait, soi-disant qu'il a eu des...
C'était pour des PVA, en fait.
C'est pour des PVA, qu'on peut pas licencier quelqu'un parce qu'il a eu un PV, quoi.
Ouais. Surtout que c'est son travail de livrer, donc forcément, avec le camion, tôt ou tard.
On
est dans une entreprise qui est un peu particulière parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont déjà fait licencier pour vraiment des broutilles. Nous, on s'occupe aussi de la préparation, donc on prend les produits, on les met dans des bacs. Il y a des bacs frais, des bacs secs, et comme je l'avais déjà dit plusieurs fois. Et en fait, il y a un salarié qui a mis un produit frais dans un bac sec, il n'a pas fait exprès, et du coup, il s'est fait licencier.
Donc ils licencient vraiment à la moindre raison. Exactement. Dès qu'ils peuvent, ça leur permet
Mais quand ça les arrange, ils licencient ceux qui les arrangent de les licencier, en fait.
Oui, c'est ça. Du coup, si vous étiez en sur-effectif, là, la moindre erreur, elle a été fatale à tous.
Voilà, en fait, vous avez bien fait de préciser. Sur-effectif, en fait, elle est venue d'où ? C'est justement par rapport à la fusion. fusion-absorption. Donc, en fait, ils ont perdu un contrat Monoprix. En fait, avec l'autre société, si vous voulez, ouais. Ça veut dire qu'ils sont retrouvés avec, on va dire, une quarantaine de chauffeurs
de plus, voilà, de préparateurs aussi de plus.
Quand ils ont fusionné, donc du coup, il fallait dégrossir. Et en fait, ils ont voulu dégrossir chez les anciens de la LAD, quoi.
En fait, l'équation, elle est très simple.
Ceux,
en fait.
Ceux qui étaient les plus organisés aussi pour se défendre.
Voilà, syndicalement. En ouais. Fait, voilà. Voilà.
Et donc, du coup, en fait, si vous voulez, c'est que pour éviter un licenciement économique, c'est ce qu'ils ne veulent pas faire, en fait. Donc, du coup, ils se font observer par une autre société et que, où les licenciés, en fait, derrière sont...
Parce qu'en fait, nous, en fait, on les avait déjà, si vous voulez, la fusion-absorption, on nous l'a déclaré en septembre l'année dernière. On avait 3 mois. On a reçu un courrier recommandé, nous, tous les élus. Et on avait dans les 3 mois, si vous voulez, on leur demandait des explications, comment elle allait s'organiser, on s'inquiétait un petit peu pour les salariés, et on n'avait jamais eu de nouvelles de leur part, ce qui était normal, mais bon, pas normal dans la logique. Ensuite,
pour moi, tout est normal, de toute façon. Ce qui est légal est normal pour eux. Donc
ensuite, ce qui s'est passé, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, on s'est retrouvés, en fait, nous, en fait, on les menaçait déjà de... Ben, les gars voulaient faire grève parce qu'on ne savait pas à quoi ça allait aboutir, cette fusion-absorption, mais on pressentait, puisqu'on savait que le contrat Monoprix dans l'autre société allait être perdu. C'était un calcul mathématique, ouais, qui allait avoir de la casse. Et apparemment, notre directeur... et la direction nous avait garanti qu'en fait il n'y aurait pas eu de plan social. Mais bon, nous, ça nous... Voilà, c'est vrai que c'est pas inquiétant dans un sens, mais c'était inquiétant dans l'autre, parce qu'on s'est posé, on se posait vraiment des questions par rapport aux futurs salariés, ce qui allait se passer. Enfin,
voilà. Bon, donc du coup, vous êtes rentré en grève il y a 3 semaines. Voilà.
Le 12 mars, ouais.
Et après, vous avez aussi décidé d'élargir des revendications aux conditions de travail, puisque Cogepar, comme d'autres, ne respecte pas le droit du travail.
Exactement. Alors, je vais vous donner un petit exemple très simple. Moi, personnellement, par exemple, il m'est arrivé une fois de faire de 10h du matin jusqu'à minuit 45 sans pause.
Ouais.
Ça fait 14h45 minutes de travail sans pause.
Ouais, pour des chauffeurs, livreurs ou voilà, des préparateurs.
Par exemple, juste un petit exemple, parce qu'en fait, il y en a des centaines, on va dire. La convention collective, en fait, ils nous donnent le droit à 13,54 € pour les paniers repas. Eux, ils les payent à 6 €. Et on a été au prud'homme, on a des gains de cause, on a des gains de dossier de prud'homme. Ils s'en foutent. Ils préfèrent payer.
Ils refont quand même à chaque fois.
En fait, ils détournent la règle. Et comme ils détournent la règle, elle est simple, en fait. Ouais. C'est qu'on ne nous donne pas des plannings. Par exemple, pour respecter la convention collective, en fait, il faut, par exemple, que tu aies une pause, que tu ne la prennes pas entre, on va dire, 11h et 14h. Eux, en fait, on ne nous donne pas le planning. Mais les gars travaillent, généralement, travaillent tout le temps.
Okay, ouais, c'est 11h, 14h,
c'est,
bah oui.
Voilà, c'est créneau horaire.
C'est marrant, c'est exactement la même chose que les invités qu'on avait la semaine dernière. C'était des représentants d'Unity qui ont soutenu les salariés de Primark et sous-traités par Protectim. Et c'est exactement le même genre de revendication.
C'est ce qu'on a pu remarquer. Je pense qu'ils ont les mêmes méthodes de management. C'est des techniques qu'ils ont.
Aussi, je tiens à dire un truc, en fait, très important, c'est que la société Cogepar, comment elle procède, en fait, c'est ce qu'on appelle le maquillage des CDI, en fait.
Ouais.
C'est qu'ils prennent, par exemple, le mec en CDI, ils le mettent, on va dire, en période d'essai, ils se servent pendant deux mois ou trois mois, et on le vire.
Et on le vire après la
période. Pour ne pas lui payer la prime précarité, les congés payés, ceci, cela, ainsi de suite.
Dans l'ancienne boîte, en fait, pour vous donner à peu près un ordre, c'est une boîte qui fonctionne à peu près avec 100 salariés. En 4 ans, depuis qu'on est bien implanté depuis 2014, il faut savoir qu'il y a eu à peu près 500 salariés.
Sur une base de 100...
C'est une boîte qui est énorme.
Mais
ça a été relevé, ils ont été condamnés par les prud'hommes, tout ça. En fait, c'est des déguisés.
Mais en effet, j'ai pas l'impression qu'ils soient très préoccupés, ces sous-traitants, à la fois de leur condamnation au prud'homme ou même de respecter le droit du travail, puisqu'ils continuent d'avoir des pratiques.
C'est un calcul mathématique,
en fait, c'est assez simple. Voilà. En fait, c'est assez simple. En fait, il y a 1600 salariés en France. Vous en prenez une cinquantaine qui vont aller au prud'homme demander leurs droits. mais il y a 1550 salariés derrière qui ne le font pas. Donc c'est pas, un donc calcul financier assez rapide.
Et donc c'était assez stratégique. Là, du coup, vous vous êtes retrouvé à être fusionné aussi. Oui. Voilà. C'est d'attaquer les sections ou une base militante qui peut justement faire aller au prud'homme via un syndical, en l'occurrence solidaire.
Justement, à savoir où le tronc, on est au prud'homme déjà.
Ouais. Avec voilà, nous, voilà.
Sachant qu'on a déjà fait une grève aussi à Carrefour, c'était sur les mêmes conditions, il y avait les mêmes problèmes. Et il faut savoir qu'on est. On a fait une grève en 2016. Il y a eu du mal. Sur tous les grévistes, il y en a au moins. Dans les 2-3 mois qui suivaient. Déjà,
les grévistes, ils ont été licenciés en 6 mois.
Une trentaine. Dont, après aussi, là, il y a eu bagarre. Enfin, il y a une personne qui s'est fait. Frappé dans la chambre froide qui a eu une mâchoire. Qui a des branches. C'était un jeune étudiant en plus, qui étudie en même temps dans le cinéma. Et voilà, il est passé en procès, donc il a
gagné.
Oui,
il a gagné,
bien sûr. Forcément, tu les dossiers de prud'homme, ils sont
gagnants. En fait, il joue sur tous les tableaux.
Et vous faites comment justement pour vous organiser? Parce qu'on sait que dans ce genre de taf aussi, la raison pour laquelle les patrons ils sont forts, c'est la difficulté qu'il y a à s'organiser quand on travaille tout seul, qu'on a du mal à se croiser avec les collègues et tout. Vous arrivez comment? Là, vous avez, par exemple, sur la grève, vous avez réussi à lancer ça comment? Est-ce que vous avez...
Alors, de base, c'était vraiment pas stratégique parce qu'en fait, c'est arrivé à un moment du mois où il n'y a pas beaucoup de livraison. Donc ça
n'a pas été, on l'a pas calculé en fait, on l'a plus fait... je vais laisser terminer l'arbitre.
Non, par rapport aux salariés, du coup, qui voulaient licencier, qui étaient en procédure de licenciement. Donc, c'était vraiment par rapport à lui. Voilà. Et ensuite, vu qu'on n'était pas organisé, on a dû s'organiser, en fait, avec le temps, vu que ça a duré 3 semaines. On est allé un peu partout, on a fait des manières.
Ouais, justement, alors, détailler un peu.
Il y a le côté humain qui est ressorti, en fait, en réalité. C'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous on a tous ressenti la même chose. Quand il y a eu la fusion-absorption, il y en a, ils se sont sentis lésés. Ces salariés qui se sont sentis lésés, en fait, voilà, nous, on est solidaires, on a l'habitude, on avait déjà une structure de base. Ils voyaient que. Parce qu'en fait, on le voit dans les deux sociétés. Il y a une partie où, en fait, eux aussi, ils ont un syndicat, mais qui est plus du côté direction, où il se passe jamais rien. Et nous, on était toujours à la manœuvre, on les défendait, tout ça. Et en fait, c'est une cohésion naturelle qui s'est passée. Et au moment où ils ont touché un salarié pour une chose anodine, en fait, que personne n'a calculé, c'est comme tout, en fait, c'est la révolution, on va dire.
C'est la petite
désolé.
Alors, plus concrètement, comment s'est déroulée cette grève? Quelles actions vous avez menées ces dernières semaines conséquentes qu'ont eu l'air de marcher?
Oui, nous, en fait...
Le piquet de grève, déjà. Parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, on bosse pour qu'on bosse pour un gros... grosse entreprise française, Carrefour. Et en fait,
on peut revenir sur un mot sur lui, sur Jérôme Dor.
Vous pouvez parler de lui si vous voulez.
Ah oui, bien sûr. On va pas le zapper aujourd'hui.
Pas hésiter.
Je vois que mon ami est chaud. Je vais le. Je vais le laisser dans sa lancée. Vas-y,
Jérôme Dor. Jérôme Dor, en fait. C'est lui, en fait, le propriétaire, on va dire, du groupe Cogepar, dont je laisse l'arbitre de développer ce qu'il a fait, ce gros monsieur.
C'est une société, je vais juste développer par rapport à la société, puis je vais le laisser terminer. Déjà, c'est une société qui date de 30 ans. Il a commencé à vendre des croissants sur la Côte d'Azur, ce qu'il dit.
D'après
l'image, c'est qui veut se donner. Et ensuite, c'est une boîte qui a 30 ans. Et il faut savoir que, dès qu'un syndicat a voulu s'implanter, même avant nous, l'ALAD et puis le coursier, c'était la CGT, il me semble. Ils ont déjà aussi eu des articles et ils ont eu de grosses difficultés. Soit on les a soudoyés, soit on essayait de les soudoyer, soit beaucoup de choses comme ça. Ensuite...
Il y a un moment en 2015, si je me trompe pas, même un petit peu avant, Jérôme Dor, il avait une société de transport. Il s'occupait des déchets hospitaliers. Et en fait, au lieu de respecter la loi et d'aller dans des déchetteries, de payer des déchetteries justement pour s'en débarrasser, il allait de payer des incinérateurs pour s'en débarrasser. Il allait dans des déchetteries en fait jeter les déchets hospitaliers. Bon, je vais pas vous dire ce que c'est. Je pense que vous savez, des déchets hospitaliers.
Ça coûte moins cher, c'est cool.
Surtout que son papa, il avait une entreprise, en fait, les chips d'or. Ouais. Et même dans l'entreprise de son papa, en fait, il mettait des déchets hospitaliers.
Donc, des seringues, un bras, une jambe.
Voilà. Donc peut-être que certaines formes... Enfin,
bon, il a été mis en examen, en fait, à l'époque.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment la base. Et là,
belle famille de père en fils.
Oui, très honnête.
Très honnête, oui, visiblement.
On a eu la chance de jamais goûter leurs chips, en plus.
Très bon. Pas envie,
moi maintenant. Ok, donc bon, donc lui, c'est le directeur de Cogepar. Pour revenir un peu plus sur la grève, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il y a eu le piquet de grève. Actions, ouais. Vous avez fait un piquet de grève. Il a tenu, c'est pendant ça. 3 semaines.
Trois semaines, on était sur le parking de Carrefour Pardieu.
Donc ça fait combien de personnes
On était une vingtaine. Mais par contre, en fait, on a eu un élan de solidarité vu qu'on allait un petit peu partout. On allait aux manifs, on allait justement le lundi à la Bourse du Travail avec les
aux assemblées générales.
Voilà, on a demandé aussi
la conférence sociale Lyon 2,
manifestation intersyndicale.
On a commencé à la fac de Bron aussi. Et du coup, bah, on a eu un énorme élan de solidarité. Il y a beaucoup de monde qui sont venus nous soutenir. Et ben, ça nous a amené justement à l'action de vendredi dernier. Où justement on était. À l'action de vendredi dernier, on était à Carrefour Pardieu. Il y a eu un appel de soutien qui a été lancé justement pour.
Sur les réseaux sociaux, sur
Gilets jaunes et autres. Pour être justement en soutien devant Carrefour Pardieu à une certaine heure. Parce que justement, on a eu les négociations en même temps.
Juste, bon, à savoir, en fait, dès qu'ils ont entendu qu'il y aura un soutien de Gilets jaunes...
En fait,
par hasard. Parce qu'en fait, ils ont fait les sourds pendant 3 semaines, et là, comme par hasard, tout de suite, ils veulent négocier.
Puis ils ont eu la pression aussi du centre commercial de Carrefour.
Et de Carrefour.
Et du centre commercial, je veux dire.
De Carrefour
et
du centre commercial.
De Pardieu.
C'est ça. Donc, on a fait 3 semaines de grève. On n'a rien eu, ni négociation, ni rien. Il y a eu un appel au suicide.
Gilets jaunes.
Exactement. Et là, tout de suite, ça a réglé. Ça n'a pas tout réglé, mais voilà, ça nous a aidés, en tout cas.
En fait, ce qu'il faut retenir de cette négociation, en fait, c'est un truc très, très fondamental pour nous, en fait. C'est la réintégration du collègue.
Donc, c'est une belle victoire, ça.
Oui, bien sûr. Ouais. Parce que si vous voulez, on est allé même au fond de leur pouvoir disciplinaire, parce qu'il n'a pas d'autre pouvoir à part celui-là. Donc voilà. Donc le monsieur, en fait, je ne vais pas le nommer. Il était réintégré. Deuxième point, c'est paiement de 7 jours de grève
sur les 3 semaines. Vous avez récupéré une semaine.
Parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'à partir du 21, on leur avait laissé une petite porte de sortie où on voulait justement négocier juste le non-licenciement et on revenait bosser.
En fait, on avait réduit nos revendications à 8 revendications, si on peut déjà les citer. Donc, on avait la réintégration du collègue, les paiements de jours de grève, le 13e mois, la prime gilet jaune, parce qu'on n'a jamais eu de prime gilet jaune. Il faut savoir qu'aussi notre entreprise a été classée dans le magazine, je crois, l'Express, parmi les 175 boîtes les plus rentables. Je crois qu'elle était 85e boîte la plus rentable. Il est passé même notre directeur sur BFM
Business pour dire qu'il a triplé le chiffre d'affaires et que son chiffre d'affaires il est estimable à 80 millions d'euros.
L'objectif, il a atteint même plus, je crois. Il dépasse les 100 et quelques. Parce que voilà, il faut savoir que il y a 2-3 ans, il y a Omnes Capital qui est rentré dans le capital de la société. D'accord. Ils ont grossi et voilà.
Il y avait la question des plannings aussi, non, qui était dans la communication.
Les heures supplémentaires. On nous les paye en fait à 100%. Donc c'est pas des heures supplémentaires. Pourtant, comme mon collègue vous a dit, on fait des journées de 14h, 13h. Donc au bout de 7h, on est censé quand même avoir des heures sup, être payé un peu plus que la normale. Et on se retrouve à être payé à 100%, même quand on dépasse les 7h justement. Donc on demande simplement qu'ils respectent
notre droit. Panier aussi à 13 euros.
Panier à 13, c'est pareil, 13 euros, ils ont inventé 54, un montant.
Voilà, par rapport à la convention collective, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, et normalement ils y ont droit et en fait ils font en sorte qu'ils n'y aient pas droit.
Et les conditions de travail surtout aussi, parce que
c'est surtout ça.
Ouais, parce qu'en fait nous on monte des charges super lourdes au 5e étage.
Sans ascenseur.
Faudrait développer de ce côté-là, parce qu'en fait c'est la ubérisation. En fait on est... On, c'est, enfin, on est en train de subir, nous, ce qui est voilà, l'impact de la ubérisation dans tous les, pratiquement tous les domaines. Il faut savoir que normalement...
Surtout la livraison.
Surtout la livraison, oui.
Il y a aussi un petit point, en fait, j'insiste de le dire, en fait. Vous savez, en fait, qu'avec eux, on n'a pas le droit d'être malade ou d'être en accident de travail. Parce que ces messieurs-là, en fait, ils n'envoient jamais à la Sécurité sociale l'attestation de salaire. Donc le mec, quand il est malade, en fait, il va rester 3-4 mois sans ressources.
Sympa.
Ouais.
Du coup, vous avez obtenu la réintégration du collègue. Vous avez réussi à obtenir des avancées sur d'autres choses
ou... En fait, oui. En fait, voilà, on a donc 7 jours de grève payée, les primes paniers avec, et ensuite. Sur l'accord de fin de conflit, ils sont engagés. Maintenant, le combat n'est pas fini. Hein. On en a l'habitude. Hein. Et du coup, on a une réunion ENAO et là, on va mettre. Les bouchées doubles, puis pareil, on médiatisera.
Et puis, on vous avait croisé aussi à l'action de Primark, le blocage exactement. De Primark. Oui, hein, ça c'est bien de montrer la solidarité entre salariés.
Je voulais dire Primark.
On lutte.
Primark, tout à l'heure, je voulais rebondir vite fait par rapport à votre collègue quand il parlait des éboueurs. Ouais. Il faut savoir que nous aussi, notre syndicat, on soutient aussi tous les éboueurs de la métropole, mais aussi Pizzorno. Qui est dans le même cas que nous et puis qui est même leur siège social est paradoxalement situé dans le même secteur, c'est-à-dire dans le sud. Et pareil, on est avec eux, quoi. On est avec tous et puis qu'on leur dit qu'il faut se battre et qu'ils y arriveront en fait.
Est-ce qu'éventuellement il y a un moyen de vous soutenir, par exemple financièrement pour les grévistes est-ce qu'il y a une caisse de grève
Cagnotte, donc Litchi, sur Change aussi.
Grève Cogepar, on invite tous les auditeurs à mettre un peu de sous parce que ça coûte de l'argent de faire la grève.
Parce qu'il y a quand même 15 jours du coup de grève qui sont pas payés, donc voilà.
Merci. Puis enfin, vous voulez dire aussi merci à.
On le mettra aussi sur le site.
Oui, on le mettra sur le site de Radio Canu.
Ouais.
Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot sur...
Merci beaucoup aux Gilets jaunes déjà, parce que je pense que grâce à l'Assemblée où on allait... Je pense que c'est ça qui nous a vraiment...
Parce que franchement, même à l'intersyndical, tous les syndicats... En fait, ce que ça nous a montré, c'est qu'en fait, c'est possible de tous se coordonner pour un même combat. Et en fait, je pense qu'on a peut-être trouvé un canal où être tous solidaires.
Oui, bien sûr. Franchement, je promets nos auditeurs en fait qu'on va revenir.
On vous accueillera avec plaisir. avec plaisir, on va. Peut-être.
On espère surtout que cette lutte de salariés sous-traités, en partie victorieuse, elle va essayer de pouvoir donner des idées à d'autres salariés dans cette même situation qui doivent subir exactement le même sort. Donc voilà,
nous aussi, on est là pour les aider au cas où.
On le voit bien, en ce moment, c'est le moment d'y aller. Donc il faut y aller. Il y aura des gens solidaires pour soutenir et pour relayer ces informations particulièrement intéressantes. On s'arrête là. Merci à vous trois d'être venus.
Merci à vous.
Et puis bon courage pour la suite. Peut-être à l'agenda.
Oui, on a le temps de faire un petit agenda.
On a tout à fait le temps. Alors déjà, il y a ce vendredi, comme je le disais tout à l'heure, quand je parlais des Comores, il est à 18h30 à la Maison des étudiants qui se situe 25 rue Jaboulé. Il y a une rencontre débat avec Tchek MC, qui est un artiste comorien révolutionnaire. Et donc c'est organisé par les jeunes comoriens de Lyon. Donc c'est le 5 avril vendredi à 18h30. Avant ça, il y a un rassemblement
mercredi. Il y a même deux rassemblements. Le premier, c'est à 13h30 sur le campus des quais de Lyon 2, à l'appel de l'association ISAL. C'est une association de l'université qui veut dire Initiative solidaire pour l'apprentissage des langues et en fait surtout pour l'apprentissage du français. Pour répondre au fait qu'il y a beaucoup de gens à Lyon, mais partout en France, qui viennent et qui ne maîtrisent pas la langue et qui se retrouvent dans des situations de précarité, sans trop de possibilités de communication. Et donc, comme cette association est une association étudiante, elle cherche à avoir des locaux dans la fac et pour le moment, ils sont refusés. Et donc, vous êtes appelés à venir à 13h30 sur le campus des quais, dans la cour centrale, pour nous soutenir. Et le soir, à 18h, toujours dans le même sujet, il y a un rassemblement devant la préfecture pour la régularisation de tous les sans-papiers.
Et lundi prochain, à la MJC Mon Plaisir, à 19h, il y a la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Señorita Maria. C'est un documentaire qui se passe en Colombie et qui est une femme trans dans la montagne. Et on la suit un petit peu dans sa vie quotidienne. Et c'est à 19h à la MJC Mon Plaisir, lundi 8 avril.
Et pour rappel, hein, donc ça Gilets jaunes toujours au rond-point de la Fessine ce soir, mercredi soir et vendredi. Et puis bien sûr, eh bien, ça Gilets jaunes aussi samedi, comme tous les samedis. Et là, ce coup-ci, ce sera à Lyon.
Et je crois qu'on a fini avec l'agenda. Il n'y a pas des annonces du printemps libertaire ?
Il y a le printemps libertaire en ce moment.
Que je suis fort étonnée que tu ne nous annonces rien de ce
mais point. Mais vu qu'on a commencé par la fin de la semaine, je me suis...
Non, on a mélangé, on a fait des allers-retours.
Retourner en arrière. Dès demain, il y a des choses.
voilà, je me disais bien.
En plus, c'est même pas dans le printemps libertaire, mais c'est quand même pas mal. Dès demain, vous pouvez aller voir à la librairie Terre des Livres une conférence sur un ouvrage qui s'appelle Amianto, une histoire ouvrière. Qui est justement sur comme s'il y a eu en France le scandale de l'amiante dans les entreprises en fait, notamment dans ce cas-là du nord de l'Italie. Vous pouvez cette fois dans le cadre du Festival Libertaire, donc dès mercredi au Ciné Rieux, la projection d'un documentaire sur la question des migrations, donc qui s'appelle Des spectres entre l'Europe. Et donc ça, c'est à partir de 18h au Ciné Rieux. Vous avez jeudi la présentation du dernier revue, du numéro 41 de la revue Réfraction, donc qui est une revue de recherche anarchiste en fait, et sur la thématique justement en discret, secret et clandestin, donc sur ces trois thèmes en fait qui sont employés sur la question des migrants, des exilés et du travail. Vous pouvez... Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le feu ? Non, mais je fais le tour, mais il y a tellement...
C'est hyper de donner le micro, en fait. Ça
ira plus vite.
Vous pouvez bien dire semaine.
Non, mais vous avez samedi, il y a quand même pas mal de choses aussi, en dehors des choses qui des gilets jaunes. Vous pouvez aller rencontrer en fait les collectifs qui luttent contre les transformations qui ont lieu dans le quartier de la Guillotière. Un échange en fait autour de ces différents collectifs animé par le réseau des géographes libertaires à partir de 15h à l'atelier du Chat-Perché. Et sinon, il y a en même temps à la librairie La Griffe en fait un débat, une présentation une tournée des pédagogies émancipatrices en dehors du système traditionnel de l'école de la République.
Et on vous annonce aussi qu'à partir de demain après-midi, vous pouvez découvrir une exposition autour des luttes des populations immigrées, de l'immigration post-coloniale, donc depuis les années 70. Ça se passe au Café du Riz, c'est à Villeurbanne, métro gratte-ciel. Et voilà, vous pourrez découvrir cette exposition gratuitement tout le mois d'avril. Et j'ai ouï dire qu'elle était d'excellente qualité. Je ne sais pas qui l'a fait, mais...
Moi aussi, j'en entends parler qu'elle était bien.
On attend vos coms sur Twitter quand vous allez la voir. Vous nous ferez des retours.
Et on vous dit à lundi prochain.
À bonne soirée.
Thank you. why.